Philosophie première, Père Philippe, 16 janvier 1984, Saint-Joseph.
Des petites questions, je réponds tout de suite et puis nous entrerons plus loin. Alors, qu'entendons par copule ? Bon, c'est un terme scolastique qui consiste à dire fier et intelligent. On en doute pas. Alors, fier et intelligent, vous voyez que qu'est-ce qu'on fait ici ? On ne fait pas le jugement d'existence, fier existe. Quand je dis Pierre existe, ou bien Pierre est, j'insiste sur l'existence de Pierre. Tandis que quand je dis Pierre est intelligent, qu'est-ce que je fais ? Je fais le lien entre intelligence et Pierre. Et est, c'est uniquement pour faire le lien. Alors c'est pour ça qu'on dira copule. C'est la colle qui unit intelligent et appui au sujet Pierre. Donc, unir l'attribut au sujet qui fait l'identification entre intelligent et Pierre. Pierre est intelligent, il y a une identification entre les deux. Cette identification entre intelligent et Pierre se fait de cette manière qu'on exprime avec la copule « et ». Donc, c'est manifester l'identification. Tout jugement va impliquer cette identification entre les deux. Pierre est intelligent. Vous voyez bien, je ne mets pas l'accent sur exister. Pierre existe, c'est bien évident. Mais je mets l'accent sur l'attribut. Et alors, quand je mets l'accent sur l'attribut et que je dis simplement « Pierre est intelligent », et est uniquement comme une fonction d'unir les deux. Et n'est pas mis en pleine lumière pour que ce soit le problème de l'exister qui soit mis avant tout. C'est simplement l'union intelligent et Pierre. Et c'est ça qu'on appelle copule. Donc c'est uniquement une fonction, vous voyez, c'est ça qu'on veut dire. Mais en réalité, c'est quand même l'exister, puisque l'intelligence ne pourrait être unie à Pierre que si Pierre existe. Parce que si je fais abstraction de l'exister, je regarde Pierre uniquement de façon abstraite. Alors Pierre, c'est l'homme. Alors évidemment, l'homme, il implique l'intelligence, c'est sûr. Mais c'est ça que je regarderais l'essence de Pierre. Tandis que c'est dans l'individuation, c'est dans le point de vue, surtout si je dis Pierre a telle ou telle qualité accidentelle. Pierre a des cheveux roux. Hein? Je peux dire ça. Pierre a des cheveux roux. Alors à ce moment-là, vous voyez, il est de telle manière, il est de telle qualité. Cet avoir est lié de cette manière. Il est de telle qualité. On fait le lien entre les deux. Donc, c'est tout simplement pour montrer le lien. C'est pour ça qu'on dit copule. Quelle différence y a-t-il entre l'intuition et l'admiration ? L'admiration est d'ordre affective, et l'admiration doit toujours être compris parallèlement à l'angoisse. L'angoisse et l'admiration, ce sont deux attitudes affectives diamétralement opposées. L'intuition est une attitude intellectuelle. Vous voyez tout de suite la différence, je crois, entre l'attitude affective qui n'implique pas, qui implique toujours quelque chose de la connaissance. Mais c'est l'affectivité qui domine. L'affectivité d'admiration, l'affectivité de l'angoisse. Tandis qu'au contraire, le point de vue de l'intelligence qui est l'intuition. L'intelligence est intuitive. L'intelligence est intuitive, c'est-à-dire qu'elle pénètre dans la réalité pour saisir dans la réalité ce qu'il y a le rapport qu'elle saisit. Et elle saisit ce rapport. Tandis que l'attitude affective n'est pas premièrement une connaissance. C'est une attitude affective face à cette réalité. Alors, on l'admire, on considère que cette réalité nous dépasse. Quand on est dans l'angoisse, on est repris sur nous-mêmes. On ne regarde plus l'autre. C'est la très grosse différence. Dans l'admiration, on regarde l'autre. Dans l'angoisse, il y a une attitude de repli sur soi. Du côté affectif. Alors, troisième question. Le jugement d'existence. Alors là, on revient à ce que nous avions dit la dernière fois. Ceci est le jugement d'existence. Touche l'existé de la réalité. L'existé du ceci. Bien l'existé du ceci. Quand je dis ceci est, je veux dire l'existé du ceci. C'est la même chose. Donc le jugement d'existence touche l'existé de la réalité. L'esprit en interrogeant. Qu'est-ce même? Vous vous souvenez, vous avez dit, il fallait essayer de comprendre la signification entre qu'est-ce l'être et ceci est. Donc, l'esprit, en abstrayant le est, formalise et sépare, tout à fait, qu'est-ce que c'est que l'être. Mais l'être semble signifier plus que l'exister de la réalité. Se demander si la signification, c'est un point de vue plus difficile, ça. Et c'est un point de vue très important. Est-ce que la signification de l'être dans qu'est-ce que c'est que l'être est la même que la signification du ceci est? Alors la question consiste à dire la signification de l'être semble quelque chose de plus général que la signification de l'exister du ceci. Je crois que vous saisissez ça. C'est important à saisir. Hein, c'est important à saisir. Parce qu'il y a une question qui est très délicate. C'est là où, de fait, on va prendre une position très différente de celle de Heidegger. Alors, c'est intéressant, parce que Heidegger est notre temps, mais c'est intéressant de voir comment on arrive à la position heideggerienne et comment on peut dépasser la position heideggerienne. Heidegger est toujours un peu pour nous comme le Platon de notre époque. Alors, bien que Heidegger n'aime pas du tout Platon, il est le Platon de notre époque. Parce qu'il est très dans un mode artistique. Et alors, il est intéressant parce qu'il nous oblige d'aller plus loin et de comprendre en même temps sa position. Il est évident que pour Heidegger, ceci est, c'est l'étant. Alors, si vous traduisez l'étant est d'une signification autre. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors ça, c'est très très net. L'objection touche ça. L'étant est quelque chose de limité. C'est limité. C'est quelque chose de fini. C'est quelque chose de contingent. L'étant que vous voyez, cette réalité que vous voyez, cette pierre que vous voyez, ce personnage que vous voyez, l'étang. L'étang est quelque chose de limité, quelque chose de contingent. Qu'est-ce que c'est que l'être? L'être, au contraire, il est dans une perspective tout autre. D'où Heidegger fait une coupure complète, une séparation complète entre la signification de l'être et la signification de l'étang. Et c'est vrai, si j'identifie ceci et avec l'étang, et vous comprenez très bien comment on peut arriver à cela. C'est dans la ligne directe de Occam. Occam transforme le jugement d'existence en une donnée d'atout. C'est donné. Es gibt, quelque chose qui est donné. C'est le fait d'exister. Pour le fait d'exister, c'est l'étang. Si le jugement d'existence uniquement consiste à toucher le mur, à toucher une réalité qui est extrinsèque à moi, et simplement dire qu'elle m'est donnée, sans avoir aucune intelligence de cette donnée, il est bien évident que l'étang reste quelque chose extrinsèque à moi, mais d'une signification différente de l'être. Pourquoi Occam dit-il que ce qui est, c'est le donné, le datum. C'est une expression qui prend le datum, le donné, le fait d'exister. Pourquoi dit-il ça? C'est quand il explique son jugement d'existence, il l'explique de cette manière. Il le dit textuellement, c'est ça qui est très intéressant à voir. Il dit que mon intelligence, en premier lieu, atteint l'intelligere. Vous voyez qu'Occam précède Descartes et que Descartes n'a rien inventé. C'est très intéressant. Occam se pose la question, qu'est-ce qui est premièrement connu? L'intelligere. Je suis intelligent. Je pense. Et puis, Occam ajoute, il est franciscain, et j'aime Socrate. Pour lui, c'est les deux choses. Intelligere et amo Socratem. Amo Socratem, Descartes l'a laissé tomber, parce qu'il n'est pas franciscain. Alors, il l'a laissé tomber, amo Socratem. Mais intelligere a été transformé par le cogito. Quelle est la première chose qu'on connaît? Intelligere. Il se pose la question, qu'est-ce qui est premièrement connu? Intelligere. Je pense. Je suis capable. Je pense. Alors, comment rejoindre l'intelligere? Comment rejoindre la réalité existante? L'intelligere, c'est le premier connu. Vous réfléchissez sur vous-même, vous dites, bon, oui, c'est vrai, je pense. C'est la première chose que je découvre, je pense. Comment rejoindre cette réalité, ceci est, la réalité existante? Eh bien, Octave dit, c'est tout simplement grâce aux sensations. Donc l'intelligere plus les sensations me permettent de rejoindre la réalité existante. Et Octave ajoute que je connais et j'atteins la réalité uniquement par mes sensations. Autrement dit, l'intelligere n'est pas présent dans les sensations. Il est extrinsèque aux sensations. Et il s'ajoute. Alors, si les sensations s'ajoutent à l'intelligere, comme quelque chose d'extrinsèque à l'intelligere, il est bien évident que la seule chose que je contacte de la réalité existante, c'est les sensations. Donc, je ne saisis pas l'être de la réalité, mais je saisis ses qualités. Et alors, on comprend très bien comment l'être de la réalité, c'est un nous-mêmes complètement inconnu. Parce que l'intelligence ne connaît qu'une seule chose, sa pensée. L'intelligence est faite pour les intelligibles. Et les intelligibles sont au niveau de l'intelligence. Et les intelligibles ne peuvent pas être dans la réalité. Dans la réalité existante, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les sens, ce que les sens touchent. Mes sensations touchent les qualités sensibles de la réalité. Ceci permet le contact de l'intelligence avec la réalité existante. Ce contact se fait par les sensations. Mais les sensations ne me disent rien de la réalité existante, si ce n'est les qualités sensibles, ce que les sensations peuvent sentir, peuvent toucher. Donc, les sensations me font comprendre qu'il y a quelque chose de sensible, quelque chose que je touche, mais les sensations ne me permettent pas de pénétrer plus avant dans cette réalité existante. Cette réalité existante échappe à mon intelligence. Mon intelligence demeure toujours la même, intelligere. Ça s'additionne, c'est le plus. Les sensations s'additionnent. Et les sensations me permettent de toucher quelque chose extrinsèque à moi, quelque chose que je ne connais pas par mon intelligence, que je ne connais pas par mes sensations. Or, les sensations, la seule chose que les sensations connaissent, c'est les sensibles. Les sensibles. Mais sensible comme la seule chose que je connais. Donc, de la réalité existante, la seule chose que je connais, c'est le ceci, au niveau qualitatif, au niveau quantitatif. sensible propre, sensible commun. Les sensibles communs, c'est la quantité. Voilà la seule chose que je connais du ceci. Je ne connais pas du tout le « et ». Le « et » échappe complètement. Le « et » se ramène à l'intelligere. C'est l'intelligence qui pense l'être. Et l'intelligence pense l'être quand elle se replie sur elle-même en se séparant du ceci. Et nous avons bien la démarche heideggerienne. Il y a un parallélisme entre la démarche de Descartes et celle de Heidegger. C'est très curieux, entre deux Descartes. Mais Descartes est plus petit bourgeois que Hobkam. Hobkam est comme un franciscain, donc il n'est pas petit bourgeois. Et Heidegger n'est pas petit bourgeois. Vous Alors c'est intéressant, quoi, parce qu'entre deux Descartes, très petit bourgeois. Il transforme la pensée franciscaine à sa manière. Et Heidegger retrouve beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est la pensée de Hobkam, c'est très curieux ça, que l'être ne peut être que saisi au niveau de l'intelligence. Il ne le dit pas explicitement, mais si je regarde son jugement d'existence, c'est net. C'est l'intelligence plus ses sensations qui me font contact avec la réalité. Donc la réalité existante, la seule chose que je connais de la réalité existante, c'est les sensibles propres et les sensibles communs. Je ne connais pas son être. Je ne connais qu'un ensemble de qualités sensibles. Un ensemble. Je présente l'individu. Alors je reconnais tout de suite à l'individu parce qu'il a un nez un peu plus pointu que le voisin. Il a un poids un peu plus grand. Il a une taille différente. Alors comment ? Alors l'ensemble des qualités, des sensibles propres et des sensibles communs, me donne l'individu. Alors, je connais l'individu, mais je ne connais pas ce qu'il est. Je ne connais pas son exister. L'exister, c'est l'intelligence. L'intelligence atteint l'être. Mais l'être n'est pas saisi à partir du jugement d'existence. L'être est saisi à partir de l'intelligence qui se replie sur elle-même dans son cogito. C'est très, très curieux, ça. C'est très intéressant parce que c'est exactement la démarche heideggerienne. Heidegger dira qu'il faut la négation de tous les étants, pour que l'être apparaisse. Et donc l'être apparaît uniquement à partir de l'intelligere. L'être n'apparaît que dans la pensée. L'être n'est pas saisi à partir de la réalité, il apparaît uniquement à partir de la pensée. Alors, la différence pour nous, c'est que notre jugement d'existence, c'est bien à travers les sensations, c'est bien évident. Je ne peux pas toucher la réalité sans les sensations. Mais ce n'est pas plus. C'est l'intelligence qui se sert des sensations. L'intelligence n'est pas localisée. Tandis que quand je mets plus, ça veut dire que je localise l'intelligence. Et donc je la matérialise. L'intelligence est présente à travers toutes les sensations. Et à travers les sensations, l'intelligence se servant des sensations, saisit à travers les sensations la réalité qui existe. L'intelligence prend au-delà des sensations son propre bien dans la réalité qui existe. Et donc elle saisit l'exister du ceci. Au-delà du ceci, elle saisit l'exister. Ceci est. Et l'être ne peut être saisi que par l'intelligence. L'être n'est pas saisi par les sensations, c'est bien évident. Les sensations, puisque l'être ne peut pas se ramener aux qualités sensibles, aux sensibles propres, aux sensibles communs. Et donc c'est l'intelligence qui saisit au-delà du ceci, est. Donc l'intelligence est présente à travers les sensations, et c'est bien l'intelligence qui saisit ceci, est, dans le ceci. Elle saisit l'exister du ceci. Alors, voyez bien la différence, j'espère, entre le jugement d'existence à la manière d'un Hobkam et le jugement d'existence tel que nous essayons d'expliquer. Je ne dis pas à la manière d'Aristote, parce qu'Aristote n'a pas explicité. Mais nous sommes obligés d'expliciter à partir d'un Hobkam. Oui. Or, portait Thérèse, c'est C'est très important. Quand il y a une hérésie, on est obligé d'expliciter plus. À cause de Lacan, à cause de Heidegger, je suis obligé d'expliciter beaucoup plus le jugement d'existence que l'a fait saint Thomas, que l'a fait Aristote. Je suis obligé, parce qu'autrement, je ne pourrais pas expliquer la position de Lacan, je ne pourrais pas expliquer la position de Heidegger. Alors, il faut l'expliquer. Il faut essayer de répondre à cette position. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, vous voyez bien, dans ce jugement d'existence, je saisis l'exister du souci. Alors, la question maintenant qui va se poser, c'est de savoir si la signification de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» est la même que l'exister du souci. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que l'essai dit, n'est-ce pas? Et puis, le est. Si la forme de l'infinitif est la même que celle du présent, au point de vue de la signification. Si la signification du verbe dépasse ses modes présent-infinitif. Ou est-ce que la signification du verbe est différente en fonction de ces modes? Au fond, le problème se ramène à ça. Vous voyez que c'est un problème de l'analogie. C'est la raison et les modes sur lesquels se donne cette raison. Si au contraire, j'ai une pensée univoque, je ne verrai pas comment il peut y avoir une ratio commune à travers les divers modes, présent, infinitif, participe, et ainsi de suite. Pour Heidegger, prenons, parce que comme lui est très lié à la philologie et qu'il n'est pas assez philosophe, en ce sens-là, trop lié à la philologie, Heidegger dira, étant est être, trois significations différentes. Trois significations différentes. Tandis que je dirais non, pas trois significations différentes. La même signification profonde sous trois modalités différentes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez. La même signification profonde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exister. L'étant, c'est la forme du participe. Est, c'est le présent. Être, c'est l'infinitif qui veut formaliser. C'est très bien. Entre le présent et l'infinitif, il y a une différence de formalisation. Alors, je vais essayer d'expliquer ça pour que vous compreniez bien. Ce que je vous dis là, c'est capital. Il faut essayer de le comprendre. Il faut au moins essayer de saisir un peu. Si vous ne le saisissez pas, essayez de préciser vos objections. C'est déjà beaucoup. C'est comme ça qu'on avance. Parce que si on ne précise pas ses objections, on n'avance pas du tout. On est passif. Ne soyez pas passif. Essayez d'être un peu actif dans votre manière de saisir et de comprendre. Coopérons ensemble. Alors nous essayons de saisir comment ces trois étant et être ont la même signification, signifie l'exister. Qu'une chose existe, qu'une chose est. Et en disant qu'elle est, on veut dire qu'elle a son existence propre, différente de la même. Est différente de celle d'un autre. Il est. C'est ça que ça veut dire quand je dis quelque chose existe. Je veux montrer qu'elle a, au-delà de sa détermination propre, une manière particulière d'exister. Elle est. Vous voyez, comme c'est difficile, on tourne toujours autour. Parce que le problème de l'exister, c'est quelque chose de fondamental et quelque chose qui, comme nous allons voir, a une signification qui est au-delà de la signification des catégories. C'est transcatégorial, l'exister. Or, nous restons, nous, figés aux catégories. C'est ça qui est terrible. On a une peine énorme de dépasser les catégories. Dépasser les catégories, c'est dépasser les déterminations du ceci, c'est dépasser les qualités particulières, et c'est d'arriver à saisir au-delà des catégories ce qui est à la source de toutes les catégories, l'être. Ces dires-là, c'est pas commode du tout. Hein. C'est très difficile, c'est un effort de l'intelligence qui veut justement dépasser toutes les qualités particulières, toutes les déterminations particulières, tout l'aspect quiditatif pour saisir au-delà. Et donc, c'est comprendre que l'intelligence n'est pas faite uniquement pour définir, l'intelligence est faite pour comprendre. Pas la même chose. Des gens qui définissent admirablement et qui ne comprennent rien. Rien du tout. Ils ne comprennent rien. Mais ils définissent. Ah oui, définir, extraordinaire. Ils restent à un niveau logique. Ils définissent. Le niveau logique, c'est la définition. La compréhension, ça c'est l'intelligence. Et le philosophe, lui, est au niveau de cette compréhension. Il veut saisir ce point de vue de l'intelligence qui va au-delà de toutes les définitions. Et ça se ramène au point de vue critique à comprendre la différence entre l'appréhension et le jugement. Quand je dis ceci n'est pas la réalité. C'est pas la même chose que de donner les catégories, de donner les définitions, de donner les déterminations. L'intelligence a un pouvoir de discerner la réalité en elle-même, dans son propre existence, de discerner ça, et de poser cette réalité, en elle-même. Alors, revenons à nos petits moutons ici. Hein. Alors, essayons de comprendre. Quand je dis « ceci est », et quand je dis « qu'est-ce que c'est que l'être ?» De fait, être et ont la même signification selon deux modalités différentes. Et c'est ça qu'il faut saisir, selon deux modalités différentes. Alors, ces deux modalités, qu'est-ce qu'elles sont? C'est la modalité très simple du concret et de l'abstrait. Alors, je prends l'exemple très simple que prend toujours saint Thomas, il a raison du reste. C'est l'exemple le plus simple qui soit, l'exemple du bon sens. Je prends blanc et blancheur. J'aimerais savoir si pour vous, blanc et blancheur, ça a la même signification. Dans le langage courant, blanc, blancheur. Quelle différence y a-t-il entre blanc et blancheur? Vous dites le blanc du mur. Vous ne dites pas la blancheur du mur. Vous dites le blanc du mur. Blanc affecte une réalité concrète. Blanc est concret. Blancheur est abstrait. Qu'est-ce que c'est que blancheur? Selon une bonne définition de dictionnaire, hein, blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Comme ça, vous définissez la blancheur.
C'est un très curieux, on ne peut pas la définir autrement. La blancheur, ce par quoi. Ce par quoi, c'est un principe. C'est le quoi, comme on dit, c'est le quoi, c'est ce par quoi.
Ce par quoi le blanc est blanc. Vous êtes donc en face d'un regard abstrait. Une marque, on crée l'art abstrait. On commence à comprendre pourquoi on dit l'art abstrait. Ce par quoi le blanc est blanc. Ça veut dire que je ne connais la blancheur que par le blanc. Je ne connais la blancheur que par le blanc. Ce que j'ai dit, la blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Donc, je ne peux pas connaître la blancheur en soi. C'est mon expérience du blanc. Du blanc du mur, du blanc du visage, du blanc du ciel. C'est l'expérience du blanc qui me fait comprendre la blancheur. Plus j'aurai l'expérience du blanc, plus mon contenu de la blancheur sera parfait. Mais je n'ai pas l'expérience de la blancheur. Non, pas moi. Mais peut-être vous. Moi, je n'ai pas l'expérience de la blancheur. J'ai l'expérience que du blanc. Oh, quel blanc. Faites la même chose entre vie et liberté. Ça devient plus grave, ça. Vous dites, tel acte est libre. Puis vous parlez de la liberté. Est-ce que vous avez l'expérience de la liberté? La seule chose que vous voyez, c'est la statue de la liberté en arrivant à New York. Hein. La statue de la liberté. Une statue de la liberté, ça j'en ai l'expérience. Mais c'est la statue de la liberté. Ce n'est pas la liberté. La liberté, vous ne la connaissez jamais par elle-même. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Ce par quoi un acte est libre. Comme la blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. C'est très curieux ça, cette maladie de l'intelligence. L'intelligence ne peut pas rester au concret. L'intelligence formalise. L'intelligence passe du concret à l'abstrait. Pourquoi l'intelligence fait-elle ça? C'est un fait ça. Et il y a des langues dans lesquelles le point de vue de l'abstrait est beaucoup plus profondément poussé que le point de vue du concret. Ça c'est le génie différent des langues. Hein. Il y a des langues qui sont beaucoup plus proches du concret. Le grec, c'est concret tout le temps. Alors que vous avez d'autres langues, l'abstrait beaucoup plus développé. Pourquoi l'intelligence formaliste-t-elle? Pourquoi l'intelligence passe du mode concret au mode abstrait? C'est très curieux ça. C'est elle qui le fait. C'est pas la réalité. La réalité est toujours concrète. Vous n'avez jamais vu la réalité abstraite. Vous n'avez jamais rencontré. Vous n'avez jamais rencontré la blancheur, c'est un spectre. C'est quoi de dire fou? Rencontrer la blancheur, la liberté. Donc vous rencontrez des choses concrètes. Et l'intelligence a besoin d'abstraire. Pourquoi l'intelligence a-t-elle besoin d'abstraire? C'est quand même très intéressant ça, parce que c'est très élémentaire. Et c'est toujours là où on saisit mieux hein, les choses au point de vue philosophique. Quand on touche des choses élémentaires sur lesquelles on n'a jamais réfléchi. On n'a jamais réfléchi beaucoup sur le point de vue libre et liberté. Parce qu'on en prend l'un pour l'autre. Alors que c'est justement là l'erreur. C'est qu'on emploie l'un pour l'autre. Et que ce n'est pas du tout la même chose. Puisque de l'un vous avez l'expérience et de l'autre vous n'avez pas l'expérience. Donc l'un est concret. Existe, l'autre est abstrait, n'existe pas. La liberté comme telle n'existe pas. La liberté comme telle n'existe pas. La blancheur comme telle n'existe pas. C'est le blanc du mur qui existe. C'est l'acte libre qui existe. Pourquoi l'intelligence a-t-elle besoin d'abstraire? Et elle le fait automatiquement. Vous l'avez fait depuis votre plus jeune âge, sans y avoir pensé du tout. Vous avez appris ça, blanc, blancheur, de forme, grave, de mots, c'est tout. Papa, à ce moment-là, 15 ans après, je vais réfléchir là-dessus. Hein. C'est idiot, ça. Réfléchir sur blanc et blancheur. Et c'est très important, parce que c'est ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez comme c'est curieux. C'est le passage du concret, passage du concret à l'abstrait. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, pourquoi l'intelligence fait-elle ça? L'intelligence passe du concret à l'abstrait pour mieux regarder ce qu'est la forme. Alors là, vous rejoignez Platon. La forme en soi. La forme en soi, c'est la blancheur. C'est la liberté. C'est le cheveu en soi. Vous savez, quand Platon se demande s'il y a une idée du cheveu. Poussière en soi, le cheveu en soi. C'est notre ça dans le Parménide. C'est la forme en soi, la blancheur en soi. Donc c'est la forme. L'intelligence formalise pour pouvoir mieux regarder ce qu'elle saisit dans un jugement. Le passage du jugement à l'appréhension. le passage de l'appréhension au jugement, ça, ça se fait sans du tout de remarque. Tandis que le passage du jugement à l'appréhension, ah, on formalise. Je sais très bien. À partir de la réalité que je connais, je sépare quelque chose, j'isole quelque chose. À partir du blanc du mur, je sépare la blancheur. À partir de mon acte libre, je sépare la liberté. Pourquoi faire ? Pour mieux connaître. C'est une exigence d'analyse. Dès qu'on formalise, on analyse. Tout simplement. Toute analyse est une formalisation. Toute analyse est une formalisation. C'est pour ça que dès que vous analysez, vous quittez le réel. C'est vrai, ça. Vous quittez le réel. Le réel, c'est la tarte tout entière. Et quand vous l'avez partagée et analysée, c'est tout la tarte tout entière. Alors vous avez déjà la trace de l'homme qui a partagé, qui a bien partagé en fonction d'eux. On sait très bien. Tandis que la terre, elle est partagée, elle est divisée par l'homme. Tandis qu'elle est dans sa totalité par Dieu. Les réalités concrètes. Dès que vous analysez, tout de suite, vous formalisez. Dès que vous formalisez, vous analysez. Et vous formalisez pour analyser, pour essayer de regarder la partie pour elle-même, la forme en soi. Vous comprenez ? Quelque chose de très curieux de Platon. C'est que Platon, lui, regarde les formes en soi comme si c'était premier. Alors que les formes en soi ne sont pas premières dans ma connaissance. Je connais d'abord la réalité existante et à partir de là les formes en soi. C'est très vrai, j'essaie de les regarder. Mais je n'ai pas la blancheur avant la connaissance du blanc du mur. Pour Platon, c'est la blancheur qu'on a en soi et grâce à la blancheur, je connais le blanc du mur. C'est très curieux, ça. Là, vous touchez tout de suite l'inversion que fait Platon. Entre l'abstrait et le concret. Platoniser, c'est formaliser. Et c'est mettre que la forme est antérieure à la réalité existante. Et nous faisons tout ça. Heidegger dit textuellement que toute la philosophie occidentale, c'est tout simplement une interprétation de Platon. Platon est toujours présent. Et pour Heidegger, c'est vrai, bien qu'il ne l'aime pas, mais il est toujours présent. Parce que c'est ça, on formalise sans le savoir. Formaliser sans savoir, c'est platoniser. Parce que c'est considéré justement que ce qui est formalisé, c'est premier. Alors c'est toujours second. C'est mon intelligence qui comprend la réalité existante et qui, à partir de là, formalise pour mieux connaître. Donc, réfléchissez sur ça. Ça, c'est très important. C'est un peu de la critique, mais c'est très important de voir que l'intelligence connaît sous ces deux modes, concret et abstrait, blanc, blancheur. Mais si je pousse un tout petit peu plus, je dirais que blanc, c'est déjà une abstraction. Alors on dira qu'il y a deux abstractions, pour ceux qui veulent pousser un tout petit peu, l'abstraction universelle et l'abstraction formelle. C'est les termes de Saint-Thomas. L'abstraction universelle produit blanc. L'abstraction formelle produit blancheur. Donc l'abstraction universelle, c'est le passage de ce mur blanc à ce mur blanc à ce mur blanc. Au bout d'un certain temps, je dirais le blanc du mur. Mais avant de dire le blanc du mur, il faut en avoir vu plusieurs. C'est bien évident. Avant de dire chat, il faut en avoir vu beaucoup. Ça te fait griffer plusieurs fois. Alors à ce moment-là, je dirais chat. Et pas latin. C'est très différent. Alors, c'est parce qu'il y aura une distinction entre le chat. Vous en aurez vu beaucoup. Je dirais chat. Chat, c'est au niveau de l'abstraction universelle. Tandis que la chatéité, c'est ce par quoi le chat est chat. On dit la gabriéléité. C'est la même chose. C'est ce par quoi le chat est chat. Alors, vous abstrayez. Et vous avez quelque chose de sous un mode abstrait. Ça fait très bien, ça. Une fois que vous faites ça, vous êtes intelligent. Une formalisation, c'est très bien. C'est tout de suite. Alors, le mot habituel, ça va. Mais c'est un truc, c'est un petit truc très simple pour attirer le monde. N'est-ce pas ? En prenant le point de vue de l'abstrait, du concret. Savoir ça, c'est tout simplement. Vous passer du concret à l'abstrait. Alors, la question qui revient. La signification du blanc et du blancheur, de blancheur, c'est la même. Ce par quoi le blanc est blanc. C'est la même signification.
La signification de l'être,
c'est la même. C'est la même signification. Il n'y a pas deux significations différentes entre l'abstrait et le concret. Puisque, vous comprenez bien, tout ce qui est dans être est dans être. Tout ce qui est dans blancheur est dans blanc. Au point de vue de la signification. C'est deux modes différents, c'est très très vrai. Il y a un mode abstrait et un mode concret. Mais toute la signification de être provient de ceci est. C'est dans la mesure où j'aurai une expérience extrêmement profonde de tous les ceci qui existent, que la signification de être sera plus riche. Mais la signification de être est contenue dans être. Donc c'est la même signification entre être et est. Et ceci, c'est capital de le comprendre. Parce que si ce n'était pas la même signification, vous comprendrez bien, il faudrait se demander d'où vient cette signification. Si elle ne vient pas du jugement d'existence, d'où vient-elle? Elle vient nécessairement du sujet connaissant. Je reviendrai là-dessus. Parce que ça, c'est important, c'est la naissance de l'idéalisme.